France Culture.
C'est cette musique très connue dans la tête. Ta da ta ta ta. Ta da da ta da. C'est quoi ? Et voilà.
France Culture, le book club.
Je pense que c'est vraiment un truc où...
Dans la bibliothèque de David Castello-Lopez.
C'est une chanson d'amour comme ça. Aimer voir est trop long.
Ouais, très bien.
On peut le couper ou pas ?
On peut le couper, alors...
C'est juste ça, j'ai peur. Bah ouais, pardon.
Ah putain !
Qu'il s'agisse des spectacles que vous interprétez sur scène ou des chroniques que vous produisez pour la radio, l'usage que l'on fait des mots est souvent un point de départ, David Castello-Lopez. Vous en amusez, vous vous en étonnez, le décortiquez, vous vous en agacez. Par exemple, votre dernier spectacle commence avec un diaporama de photographies pendant lequel vous interrogez le public, les corps et les visages qui défilent. Sont-ils, oui ou non, des vrais gens, comme aiment à les désigner les hommes et les femmes politiques, en l'occurrence le président Macron. Vous démontrez sans difficulté la part de mépris social que contient cette expression-là, censément positive et authentique. Cette dernière notion donnant son titre à ce spectacle qui se demande, pendant près d'une heure et sans lésiner sur l'absurde, ce que c'est exactement authentique. Les accents vous intéressent aussi, les expressions vous intéressent aussi, les modernisations de la langue, les importations d'autres langues, notamment via l'émigration, bref, c'est un terrain d'exploration ludique pour vous. Alors on s'est demandé ce que vous lisiez, ce qu'il pouvait bien avoir dans votre bibliothèque. Merci beaucoup David Castello-Lopez.
Merci à vous.
Accepter l'invitation du book club de France Culture. On va entrer dans votre bibliothèque mentalement tout à l'heure, oui. Mais on commence toujours par la même question. Est-ce que vous vous souvenez où, quand, à côté de qui, et ce que ça vous a fait d'apprendre à lire ?
Je me souviens d'écrire mon nom sur le sable quand j'étais bien avant d'apprendre à vraiment écrire.
Et lire, hein ?
Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, donc mais si je l'écrivais, c'est que je le lisais aussi.
Et vero.
D'une certaine façon, la première chose que j'ai dû lire, c'est mon prénom. Voilà, une belle carrière d'égocentrisme qui s'annonçait. Et sinon, mes premières, oui, je me souviens très bien d'apprendre à lire en CP, et c'était avec un livre d'apprentissage pour les gens de mon âge, donc j'avais 6 ans à l'époque, qui s'appelait Yves et Béatrice, et il y avait ce truc que, je crois qu'Yves et Béatrice, il y avait donc plusieurs volumes, donc de difficultés croissantes à mesure qu'on était après, de plus en plus fort en lecture. Et à mesure que la difficulté augmentait, la taille des caractères baissait. Et je me souviens très bien d'avoir donc le premier livre entre les mains. Donc, je sais pas, c'est des mots écrits en énorme pour savoir dire, je sais pas, chien, carotte. Peut-être c'était trop compliqué, c'était peut-être même trop compliqué, carotte. Enfin voilà, des trucs en énorme, écrits en énorme. Mais j'avais déjà eu entre les mains le livre de l'année suivante et je me disais, mais waouh, ça c'est le truc des grands, c'est écrit en petit, il y a tellement de mots dedans. Et il y avait ce truc un peu ludique et on méritait, en fait, il fallait mériter que le livre soit écrit en caractère plus petit.
C'était agréable pour vous comme apprentissage ?
Oui, c'était agréable. Je pense que j'avais pas de problème de dyslexie ni de. Je pense pas que j'étais non plus particulièrement précoce. Je sais qu'il y a des gens qui apprennent à lire tout seul à l'âge de 8 mois.
C'était... Beaucoup. Voilà. Cependant curieux, ça.
Ouais. Curieux, un peu fier. Et c'est quelque chose que je retrouve maintenant. Enfin, j'ai pas de souvenir de joie gigantesque quand j'étais petit, mais je pense qu'un tout petit peu quand même. Je me souviens que j'essayais de lire le nom des boutiques avec ma mère quand je marchais dans la rue, et c'est un plaisir que j'ai tout à fait, mais de façon parfaitement équivalente, et qui reconvoque exactement le même plaisir quand je lis quand je suis dans un pays où les choses sont écrites en alphabet cyrillique, parce que je connais l'alphabet cyrillique mais pas très bien, et donc
de déchiffrer.
Exactement, je suis là genre. Cinéma. Voilà, exactement. Et ça m'a pris 5 minutes de lire un mot, mais il y a une petite fierté qui est la même, je pense, que celle que je ressentais quand j'avais 6 ans devant les boutiques avec ma mère.
Vous connaissez beaucoup d'autres alphabets ?
Non, je connaissais deux là. Puis après, il y a des langues dont je connais des termes. C'est des alphabets latins, mais où il y a des lettres un petit peu cheloues qui diffèrent. Je connais l'alphabet polonais, par exemple, où il y a le L barré. Il y a les C avec un accent, des trucs comme ça. Mais non, je connais.
Vous parlez combien de langues ?
J'en parle 4 vraiment bien.
Couramment.
couramment. Et ensuite, il y en a, disons, trois autres que je peux, peut-être un peu plus même, que je peux prononcer très bien. C'est-à-dire, je peux faire genre très très bien que je la parle, quoi. Mmh. Alors que je la parle pas. C'est le cas pour l'allemand, c'est le cas pour le polonais un petit peu, et c'est le cas.
Mais bah, avec une petite base, quand même.
Avec une petite base, avec une petite base. Non, non, une petite base, mais disons.
Simplement, l'accent, c'est vraiment. Ça peut
je peux vraiment faire genre ma race, quoi. Vraiment.
Okay. Est-ce qu'il y avait des livres chez vous, à l'endroit où vous avez grandi?
Ouais, ouais, il y avait beaucoup de livres chez moi, en particulier parce que mon père était était quelqu'un qui lisait beaucoup, plus que les autres membres de la famille.
Il lisait quoi ?
Il lisait tout, mon père. C'était vraiment c'était un homme très cultivé, qui lui-même ne venait pas d'une famille cultivée. Vraiment, lui, c'était quelqu'un qui avait qui s'était dirigé vers le livre un peu seul, quoi. Il y avait vraiment tout. C'était vraiment une bibliothèque d'hommes de la Renaissance, quoi, un peu, quoi. Enfin, d'être humain de la Renaissance. Je voulais pas dire que c'était seulement un homme ou une femme. Non, il y avait tout, quoi. Il y avait de la poésie française. Il y avait de la littérature portugaise beaucoup. Parce que mon père était portugais. Enfin, était demi-portugais, demi-français. Mais donc, il y avait énormément d'auteurs portugais. Enfin, disons que la littérature portugaise était surreprésentée par rapport à une bibliothèque classique de personnes du monde occidental, disons, je pense.
Il lisait beaucoup. Vous l'avez beaucoup vu lire ?
Je l'ai beaucoup vu lire. Je pense que les grands moments de lecture de son existence, ils étaient derrière lui. Mmh. Il m'a eu très très tard, mon père. Il m'a eu à 56 ans. Donc, je l'ai connu vraiment à la fin de sa vie. Et les grandes boulimies de lecture de son existence, elles étaient passées. Mais à mon époque, il passait quand même beaucoup de temps plutôt à regarder le tennis à la télévision. Mais je le voyais quand même lire. On a pu quand même échanger sur un certain nombre de lectures quand j'étais adolescent. Je me souviens qu'on lisait Belle du Seigneur à peu près au même moment, lui et moi.
Il vous en a conseillé, c'était une transmission active ? Il vous disait, tiens, tu devrais lire ça, tu pourrais lire ça ?
Ils étaient désespérés, mes parents, ma mère et mon père, parce que j'étais pas du tout un enfant qui lisait, ni même un jeune adolescent qui lisait. Alors, il y a eu des exceptions très ponctuelles. Je me souviens qu'un jour, on est parti en vacances et il y avait un ami, il y avait le fils d'un couple d'amis de mes parents qui était là, qui avait à peu près mon âge et qui, lui, n'arrêtait pas de lire. Et tout le monde disait, mais à quel point il est génial, Emmanuel. Alors là, on peut pas lui enlever les livres des mains. Il est tout le temps en train de lire. Et je voyais l'admiration que ça suscitait et ça m'a énervé vraiment fort. Et donc, je me suis dit, ah ouais.
Il y a un truc.
Ah ouais, et donc j'ai lu en vraiment une journée un livre, je me souviens c'était L'âne culotte, dont c'était un livre pour enfants assez, je pense, assez connu, j'ai oublié qui c'est qui l'avait écrit, mais je l'ai lu en une journée, vraiment je me suis forcé, et je dis, t'as vu, moi aussi je lis.
Vous avez aimé ça, performer ce corps qui lit là, être le jeune homme ou le jeune garçon, je sais pas quel âge vous aviez, qui lisait ?
J'avais 10 ans, je crois. Ouais, j'aimais bien l'image que ça me donnait, j'ai lu par vanité, par snobisme, ce qui est quelque chose que c'est exactement pour les mêmes raisons que j'ai commencé à lire quand j'avais 16 ans.
Pour dire que vous lisiez.
Alors, en l'occurrence, là, c'était pour ça, pour quand j'avais 11 ans. Mais ensuite, c'était parce que je suis mon premier amour, Adrienne, quand j'étais en première. C'était une fille qui était, elle était ultra cultivée. Elle avait un an de moins que moi. Moi, j'avais 16, elle avait 15. Elle avait déjà tout lu. Elle savait tout sur tout. Et je voyais que son regard pour moi, sur moi, était, elle disait oui, pour toi un petit peu.
Mais elle vous aimait quand même?
Grande question. Je l'ai revue cette année.
C'est peut-être pas la question.
Je l'ai revue cette année. Je pense que pour la première fois depuis 20 ans, je l'ai revue cette année. Je crois qu'elle m'aimait, ouais. Je pense qu'elle avait aucune admiration pour moi. Et que moi, j'en avais énormément pour elle.
Et donc, pour rattraper l'écart qui semble-t-il exister entre vous sur ce terrain culturel, vous avez lu.
Ouais.
Et ça vous a plu ?
Ça m'a énormément plu, mais tout à coup j'ai commencé à lire énormément, c'est-à-dire je faisais plus que ça, quoi, tout le temps. Je jouais de la guitare aussi,
mais ça aurait pu être une corvée juste pour séduire Adrienne, alors qu'en fait vous y avez trouvé du plaisir.
C'est tout à fait ça. J'y ai trouvé du plaisir. Il y a quelques fois, je pense qu'il y a des livres que j'ai lus un petit peu en me disant genre non, je les lis, puis je comprends pas vraiment ce que je suis en train de lire, puis c'est quand même très chiant, mais c'est pas grave parce qu'à la fin je l'ai lu. Je l'ai lu, j'ai lu tous les mots qu'il y avait à l'intérieur et je peux dire que je l'ai lu. Et donc voilà. Mais donc je pense que c'est, il y a eu ça pour la lecture, il y a aussi ça pour le cinéma d'art et d'essai avec elle. Elle
et ça marchait sur Adrienne ou pas? Ou c'était peine perdue?
Je pense que oui. Alors bien sûr, on rattrape pas un retard de 10 ans de lecture en un an. Mais je pense qu'elle est... Enfin, je sais pas, elle était pas hyper sympa avec moi quand même, mais globalement, je pense que c'était mieux que si je l'avais pas fait, ouais. Et ça, et en fait, je pense que j'ai lu plein de choses par snobisme.
Et ça, c'est resté?
Non, en fait, le fait que je l'ai lu par snobisme, mais il n'empêche que j'ai lu des grands textes
et
j'ai
lu et que ça vous a éventuellement touché.
Et que ça m'a touché et que ça m'a cultivé et que il en est resté des choses. Même si l'étincelle de départ était une étincelle de snobisme, il en est resté quelque chose qui est de l'ordre de la culture, quoi. Mmh. Et je suis très content. Adrienne, de ce point de vue-là, a vraiment changé ma vie. Il y a eu un avant et un après, et ça m'a plus jamais quitté.
Voilà. Mais est-ce que vous êtes dirigé un jour autrement vers la lecture, David Castello-Lopez? Est-ce que vous avez eu après d'autres raisons d'aller lire des livres que celle de séduire Adrienne ou une autre
personne? En tout cas, de d'être un peu moins une, d'avoir un petit peu plus de valeur à ses yeux. Après, j'ai lu, je pense, comme tout le monde lit, c'est-à-dire à la fois pour apprendre et pour, et par plaisir, quoi. Même s'il y avait aussi de ça dans le moment où je lisais, au moment où j'étais avec Adrienne, mais c'est, ouais. Après, je pense que je suis devenu quelqu'un qui aime bien lire, quoi. Normal, quoi.
Ça attire quoi comme place aujourd'hui dans votre vie, la lecture?
Je lis moins de fiction que je lisais, beaucoup moins.
Depuis quand? Ou depuis quoi?
Depuis quoi? Depuis quand? J'ai l'impression depuis que j'ai vraiment commencé ma carrière de journaliste qui explique des choses. Depuis que j'ai commencé, donc ça fait quand même longtemps, hein, ça fait 12 ans, quoi, 13 ans. J'ai tendance à lire des choses, à lire des choses qui expliquent des choses, à lire des sciences humaines, ce que globalement, aux États-Unis, on appelle la non-fiction. Donc, les grands journalistes américains du nouveau journalisme, donc, qui écrivent des livres qui sont tout à fait écrits comme des romans, simplement. Tout est vrai. Mmh. Tout est vrai, vérifié, et avec le même degré de précision et d'obsession sur la véracité
des
faits.
Vous ne lisez plus du tout de romans?
Si, je lis Philip Roth, par exemple. Pas mal. Je lis là, je suis en train de lire... alors, c'est pas un livre que je lis pour sa qualité littéraire, mais c'est parce que curieux d'un livre dont tout le monde parle, un livre de dark romance qui s'appelle Captive. C'est un phénomène de librairie auprès des jeunes filles, en particulier de 13-18 ans, quoi.
Et alors, qu'est-ce qu'on y comprend?
J'avoue que là, c'est plutôt un truc de genre, tiens, ça m'intéresse de voir pourquoi est-ce que ce livre est un phénomène de société.
Ouais.
Ça pose des questions, disons, j'ai pas fini de le lire, mais globalement, c'est l'histoire d'une fille jeune, qui a une vingtaine d'années, 20-22 ans, qui n'est pas mineure, mais qui est retenue...
Qui est captive
dans au sein d'une organisation mafieuse aux États-Unis et qui est un petit peu l'esclave sexuel de ses possesseurs, comme il s'appelle dans le livre. Et tout le truc, c'est que ça lui déplaît pas complètement. Voilà. Et moi, j'ai parlé à des libraires et ils sont, enfin, c'est-à-dire que le rayon littérature érotique de la FNAC qui existait à une époque, il n'existe presque plus.
Il est remplacé par la romance.
Et il est remplacé par un rayon 5 fois plus grand de livres, donc de romance. Et ils me disent, mais c'est 98% de jeunes filles qui lisent ces livres-là. Et donc, il y a un truc de littérature donc érotique. Alors, c'est pas érotique au sens où moi, j'ai aimé la littérature érotique, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins graphique, beaucoup moins porno, on pourrait dire, mais avec un gros tropisme de domination, quoi, de séquestration, de etc. qui sont des fantasmes tout à fait valables. Le petit truc, je dis genre, est-ce que vraiment, peut-être, quand t'es en train de former ta sexualité en tant que jeune fille à l'âge de 13 ans et demi, Est-ce que ça va pas renforcer peut-être des trucs
qui s'appellerait le patriarcat et la culture du viol.
Voilà, exactement. Même si, voilà, en tout cas, si les personnes sont adultes,
et consentantes,
j'y trouve pas de problème.
Absolument.
Voilà. Après, je pense que 13 ans, peut-être pas, mais je pense qu'on peut quand même faire la différence quand on a ces âges-là entre le fantasme et la littérature et le fait de bah en fait c'est pas parce que je lis un roman où il y a quelqu'un qui est esclave sexuel que j'ai envie d'être esclave sexuel ou peut-être j'ai envie de jouer à l'être, ce qui est quand même très si profondément différent que de l'être vraiment.
Est-ce qu'il y a, on l'entendra tout à l'heure dans un des choix que vous vouliez partager avec nous, est-ce qu'il y a un rapport fort entre votre rapport à l'érotisme et ou à la sexualité et la lecture? David Castello-Lopez.
En fait, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un rapport globalement dans ma sexualité et dans mon rapport à la sexualité avec la lecture, mais j'ai beaucoup lu de littérature érotique. Ouais. Beaucoup lu. D'ailleurs, c'était le thème d'une de mes chroniques sur France Inter, peut-être un peu plus d'un mois, un peu moins d'un mois même. J'ai beaucoup lu de littérature érotique, mais je pense au départ, parce que moi je suis né à une époque où le porno était rare.
Au début des années 80.
Je suis lié au tout début des années 80, en 1981, et donc j'ai passé mon adolescence dans un monde où le porno était rare. On pouvait pas se procurer de la pornographie facilement. Il y avait le film du premier samedi du mois, mais c'était très compliqué à plein d'égards. Il y avait les magazines porno, mais il fallait les acheter, donc être confronté à la personne qui et dire bonjour monsieur, je voudrais ça s'il vous plaît. Et la littérature érotique, c'était un peu porno même, c'était un peu une façon d'avoir accès à ça, mais de façon un peu plus genre chic, non, c'est de la littérature, etc. Et même si l'objectif était quand même assez voisin, quoi. Et donc j'ai beaucoup lu, hein, j'ai beaucoup lu ça. J'ai lu Anaïs Nin, j'ai lu Henry Miller, j'ai lu le Marquis de Sade, qui est pas très excitant le Marquis de Sade. C'est plus oh, tiens quelle performance de n'importe quoi
dans tous les sens,
de n'importe quoi dans tous les sens où il y a de meurtres, des trucs dans tous les sens. Genre, enfin on sent vraiment, j'ai vraiment là que j'ai senti que genre bah, évidemment que c'est pas pour être fait. C'est juste une espèce d'exercice de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est dans l'ordre des possibilités de combinaison de n'importe quoi chez l'être humain. J'ai lu Esparbeck aussi, Rhys Parbeck, grand auteur porno français qui est mort en 2020, meilleur auteur porno qui soit, avec une écriture très transparente, très droite au but. J'ai une amie qui s'appelle Camille Emmanuel, qui est une autrice qui elle aussi écrit de la romance, mais de la romance un peu déconstruite, qui m'a dit l'autre jour qu'elle adore Esparbeck en disant que c'est des romans qui se lisent d'une main. Voilà.
Comme on dit parfois. On va entrer dans votre bibliothèque avec les deux mains et les deux oreilles, David Castello-Lopez, juste après ça.
Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à célébrer. Chaque chose qui se passe ne fait pas un souvenir. Les sourires sont au repos, chacun fait ce qu'il doit faire. C'est pas comme sur les réseaux, dans la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler. Les voisins se disent bonjour et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien, au moins il se passe rien de mal. C'est pas ce qu'on voit aux infos. C'est la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours. Les choses qu'on fait tous les jours n'ont pas vraiment d'intérêt, mais en vrai, n'a-t-on pas intérêt à faire ce qu'on fait? Au fond, je sais, mais chaque fois j'oublie, il n'y a rien de plus vital. Que le vide de tous les jours.
On arrive dans le deuxième moment de cette bibliothèque avec vous, David Castello-Lopez. On vous a demandé de nous proposer 5 livres. Voilà, c'est une demande qu'on fait à chacun de nos invités, que chacun interprète à sa façon. Comment vous les avez choisis en préambule, avant qu'on vous entende les lire? Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Je me suis dit, il faut que ce soit des choses qui m'aient marqué d'une façon ou d'une autre et qui soient variées dans leur nature.
Voilà. Et pas dans leur genre.
Et...
Oh, il n'y a que des hommes. C'est pas grave, c'est loupé. Bah, vous passerez pas pour un homme féministe militant.
Ouais, non.
C'est pas grave. Trop tard.
Si, j'aurais pu prendre Iris Murdoch en plus, qui m'a beaucoup marqué, mais bon, c'est vrai que je l'ai pas prise.
J'aurais peut-être pas dû vous tacler, c'était pas très sympa.
Comme vous voulez.
Allez, le premier choix, c'est un dictionnaire. Évidemment, ça vous va très bien.
Oui.
Le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey.
Oui.
Pourquoi ce choix et à quelle page vous l'avez ouvert ?
Il y a ce truc triste avec les dictionnaires, c'est que c'est un peu comme les bottins. C'est-à-dire, c'est un peu obsolète comme truc. Les dictionnaires, sous leur forme physique.
Ah oui.
Moi aussi, j'adore, mais c'est-à-dire que c'est des trucs qui prennent de la place, qui pèsent 15 tonnes et que, voilà, qui sont un peu des objets qui sont amenés à disparaître. Sous cette forme-là, bien sûr.
Mm.
Mais que moi, j'ai toujours le dictionnaire historique d'Alain Rey dans sa forme physique, qui est quand même, pour le coup, un truc qui pèse vraiment 15 kilos. Et 15, j'exagère, mais bien 3. Et, je l'ouvre encore régulièrement. Alors maintenant, le truc, c'est qu'il y a une version il existe sous la forme d'application. Le dictionnaire d'Alain Rey est une forme application. Alors,
on télécharge l'application du dictionnaire historique.
L'application du dictionnaire historique. Ça coûte un petit peu cher pour une application, mais ceci dit, c'est vraiment de l'argent que je trouve extrêmement bien dépensé. Et moi, je pense pas qu'il y ait un mois où, plusieurs fois par mois, je consulte le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, et à chaque fois, c'est délicieux, quoi.
Alors, le principe étant, qu'offre ce dictionnaire de plus que les autres?
Pour toutes les entrées, pour tous les mots qui décide de développer, il y a l'histoire de comment ce mot est devenu ce mot. Donc, d'où il vient, quelles ont été ses acceptions.
Voilà deux passions qui sont les vôtres réunies, les origines.
Et
les mots.
Exactement.
C'est cadeau.
Tout à fait. Et donc, l'évolution de ça à travers le temps, ces exceptions, si c'est des mots qui sont archaïques ou pas, aussi de voir aussi l'humilité qu'il y a des fois, genre, il y a plein de mots, on sait pas très bien d'où ils viennent, voilà. Alors, il y a des hypothèses, elles sont pas très bonnes. Donc voilà.
On
vous les livre quand même, quoi. Et il y a ce plaisir très très grand de voir un mot auquel on fait même pas attention, vraiment s'ouvrir, d'avoir accès aux principes qui l'ont fondé. Quoi. C'est sa forme qui s'ouvre et on voit « Ah d'accord ah !» Et c'est des petites explosions de plaisir intellectuel qui, je pense, chez tout le monde, mais chez moi y compris, c'est pas si loin du plaisir sensuel. Il y a un truc, genre, il y a une sensation au fait de comprendre qui est très agréable.
On écoute l'entrée Renard.
Ouais, que je lis donc sur l'application du dictionnaire historique de la langue française sur mon téléphone. Renard. D'abord écrit renard avec un T au début du XIIIe siècle, puis renard avec un D vers 1530, et l'emploi comme nom commun de renard, nom propre d'origine germanique, issu du francique Reginhardt, de ragin, conseil, et hart, fort, dont le correspondant anglais est hard, dur, et qui repose sur un radical indo-européen, krat, krassi. Reginhardt a donné Reinhardt en allemand. Depuis le 9e siècle, on a pris les animaux pour héros de petits poèmes épiques en latin médiéval, particulièrement dans les régions de l'Est et du Nord de la France, et dans les Flandres, où se mêlent le roman et le germanique. En Flandre, des noms humains sont appliqués aux animaux dans l'épopée latine Isangrinus de 1150, du maître Nivardus, dans laquelle paraît Reinhardus. Renard est aussi le nom d'un goupil particulièrement rusé dans le bestiaire de Guillaume Leclerc, auteur normand, en 1211. Le roman de Renard, 13e siècle, lui-même inspiré de L'Ecbasis Captivi, traite du conflit de deux animaux symboliques, le loup, force, cruauté et esprit borné, et le goupil. Avec le grand succès de ce texte, qui exploite la typologie animale de Lysangrinus, où renard figure au premier plan de toutes les histoires, le mot devint la désignation préférée pour l'animal, renard le goupil devenant le renard. Ainsi, la nouvelle désignation a concurrencé, puis éliminé l'ancien et moyen français goupil. Aujourd'hui, si l'on accepte quelques patois des régions alpines et pyrénéennes, renard est le mot unique de tout le domaine gallo-roman pour désigner cet animal.
Vous dites comme tout le monde cette petite explosion comme ça de plaisir à comprendre un mot en l'ouvrant, je suis pas sûre. Et du coup, je me demande depuis quand est-ce que vous avez cette espèce de jubilation déjà à voir les mots comme des choses qu'on peut ouvrir et à voir des petites choses exploser dans vos cerveaux quand vous les comprenez. C'est pas comme tout le monde, je crois.
Non, il y a des degrés, et je pense que c'est surtout la largeur, le spectre de ce qui peut provoquer ça, qui est plus ou moins large chez les gens. Je pense qu'il y a zéro personne qui aime pas au moins un petit peu comprendre. Ouais. Au pire, se comprendre soi-même. Voilà. Oh, tiens, je pensais si, voilà. Il y a toujours un petit plaisir à comprendre. Et je pense que le spectre de ce qui peut le provoquer chez les gens, il est plus ou moins large. Et je pense que chez moi, il est peut-être un peu plus large que chez la moyenne des gens.
Mais comprendre les mots, c'est encore autre chose que comprendre.
Oui, c'est vrai. Comprendre les mots, c'est, je pense que, mais ça vient de l'enfance, ces trucs-là. Mmh. Il y a des,
c'est, d'accord.
Quand on est enfant, on fait genre, oh, je savais pas, c'est trop bien. Ah, tu savais que, et on a ces petits trucs, et peut-être qu'il y a un grand nombre de gens qui le perdent, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui le gardent, et je pense que j'ai tout simplement gardé ces petites jubilations de l'enfance à ce que des pans de la réalité me deviennent moins obscurs, et parmi ces pans-là, il y a le langage et les mots. Quoi.
Mais plus que le reste. Non? Je me trompe?
Après, il y a des choses sur lesquelles moi j'adorerais comprendre la physique. C'est juste que je crois que je suis juste pas assez intelligent. Il y a un truc aussi simple que ça. Il y a la physique.
C'est trop dur à comprendre.
C'est trop dur. C'est vraiment trop.
C'est plus accessible.
C'est plus accessible, je crois. Tout le monde est concerné par les mots. Tout le monde les utilise. La physique, on peut très bien la vivre sans la comprendre.
Mais quand même, j'y pense. De grandir dans un foyer où vous avez dit tout naturellement tout à l'heure que vous parliez quatre langues, mais vous avez laissé entendre qu'ils en parlaient au moins deux chez vous.
Ouais, il y en avait deux.
Il n'y a pas une mini prédisposition à se rendre un peu plus curieux en tant qu'enfant à qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des mots?
Si, sans doute d'avoir été un peu... Si, j'avais quand même un père assez lettré de ce point de vue-là. Il y avait des dictionnaires à la maison, il y avait une ambiance quand même de le savoir, c'est cool, quoi.
Et le portugais était parlé?
Oui, moi je suis bilingue en portugais. J'ai les deux langues complètement, et donc
mais
oui.
Complètement naviguer entre deux langues, ça prédispose à être curieux de ce que c'est qu'une langue, non?
Pas du tout. Je pense que oui. Ah tiens, il y a deux façons de dire la même chose déjà.
Ah oui, déjà.
Ah tiens, ce mot-là, c'est ce mot-là. Ah tiens, ceux-là, ils sont voisins. Ah tiens, ce mot-là, il existe exactement. Enfin, il ressemble exactement en portugais, sauf qu'il veut pas dire exactement la même chose. Et donc oui, il y a peut-être quelque chose de que la langue, elle s'ouvre un petit peu d'elle-même parce qu'il y en a deux à la maison. C'est tout à fait possible et même probable. Mais il n'y a pas que les mots eux-mêmes, il y a aussi la façon de les prononcer, il y a les accents, il y a la prosodie, la musique des phrases qui sont, où il y a des prosodies qui sont typiquement françaises, typiquement parisiennes, des prosodies qui sont typiquement portugaises, et de voir tous ces trucs qui sont un peu qui sont du métalangage, on pourrait dire, c'est pas les mots en eux-mêmes, c'est tout ce qu'il y a autour de ces mots dans la façon dont ils sont prononcés. C'est des trucs qui, je pense effectivement, le fait d'avoir de langues et par ailleurs d'avoir une famille qui s'y intéressait déjà un petit peu.
C'est la France, votre deuxième choix. C'est Jean Racine. Vous avez choisi Andromaque, oui. 1667. Pourquoi?
Raison très simple. Bah alors, déjà, j'aime vraiment énormément Racine, mais vraiment beaucoup. C'est des trucs d'une. C'est des textes pour moi qui il y a une sorte de perfection, de pureté qui est liée à l'alexandrin, quoi. Il y a un truc de genre le fait que cette espèce de monceau de contraintes si difficile à tenir, et que quand on fait attention à les respecter entièrement et qu'on le fait bien, ça donne des choses qui sont « wow, ça tape ». Et alors quand c'est Racine et qu'en plus ça va au tréfonds de l'âme humaine, de la douleur, des larmes, du tragique, ça donne des choses qui sont parmi les choses les plus belles qui ont été écrites sur la Terre.
À quel moment vous découvrez Racine?
Alors je l'ai découvert au collège parce que j'ai étudié Britannicus quand j'étais en troisième, comme beaucoup de gens. Mais je l'ai surtout découvert beaucoup plus profondément quand j'ai joué moi-même dans Andromaque. J'ai joué Pyrrhus dans Andromaque quand j'avais 25 ans. Et donc, je me suis plongé dans Andromaque comme rarement je me suis plongé dans un texte, au point que je connaissais, c'est sûr que je connaissais le rôle de Pyrrhus par cœur, et je connaissais même, à force de le répéter, je connaissais une grande partie du livre par cœur, et ça m'a accompagné. Et c'est des passages, certains passages de Pyrrhus qui me sont restés et que je récite encore quelques fois sous la douche, par exemple. Sous la douche. Vous ne m'attendiez pas, madame. Je hurle comme ça et ça résonne et tout seul.
Sous la douche, plus que résoudre une insomnie ou passer l'ennui dans le métro.
Oui, ça me touche moins. Puis dans la douche, on peut ni lire ni écouter des choses.
Il faut proclamer.
Il faut scander. Je crois qu'il faut scander.
Faut chanter
ou scander. Et voilà. Puis après, quand je suis avec d'autres gens, je pense que gueuler Racine devant d'autres gens, c'est sûr. Immédiatement, on est un connard. En fait, il y a pas
ou
de.
Ou pas. Ou en tout cas, ça crée quelque chose. Ça met une ambiance.
Ça met une ambiance.
Voilà.
Et ça, ouais.
Il faut après être ok avec cette ambiance.
Faut l'assumer de dire. Ah ouais, David, le mec qui récite du Racine devant tout le monde, c'est dur.
Ici, vous pouvez vous savez.
Mais ouais.
Et c'est pour ça qu'on y va tout de suite.
Non, parce que je risque de me tromper là. Je peux essayer de le faire de mémoire et je me rattrape.
Exactement.
Ok.
Ouais.
Vous ne m'attendiez pas, madame, et je vois bien que mon abord ici trouble votre entretien. Je ne viens point armé d'un indigne artifice, d'un voile d'équité couvrir mon injustice. Il suffit que mon cœur me condamne tout bas et je soutiendrai mal ce que je ne crois pas. Un autre vous dirait « J'épouse une Troyenne, oui madame, et j'avoue que je vous ai promis la foi que je lui voue. » Un autre vous dirait que dans les champs troyens, nos deux pères sans nous formèrent ces liens et que sans consulter ni mon choix ni le vôtre, nous fûmes sans amour engagés l'un à l'autre. Mais c'est assez pour moi que je me sois soumis. Par mes ambassadeurs, mon cœur vous fut promis. Loin de les révoquer, je voulus y souscrire. Je vous vis avec eux arriver en épire. Et quoique d'un autre œil l'éclat victorieux eût déjà prévenu le pouvoir de vos yeux, je ne m'arrêtais point à cette ardeur nouvelle. Je voulus m'obstiner à vous être fidèle. Je vous reçus en reine et jusque à ce jour, j'ai cru que mes serments me tiendraient lieu d'amour. Mais cet amour l'emporte et par un coup funeste, Andromaque m'arrache un cœur qu'elle déteste. L'un par l'autre entraîné, nous courons à l'autel, nous jurer malgré nous un amour immortel. Après cela, madame, éclatée contre un traître, qu'il est avec douleur mais qui pourtant veut l'être, pour moi, loin de contraindre un si juste courroux, il me soulagera peut-être autant que vous. Donnez-moi tous les noms destinés aux parjures, je crains votre silence et non pas vos injures, et mon cœur soulevant mille secrets témoins m'en dira d'autant plus que vous m'en direz moins.
C'est beau. Bilan des opérations, vous avez quoi complètement 98% en mémoire?
Ouais, il y a des moments, en fait, j'avais le truc bon, mais j'ai cru que je l'avais pas, et donc à deux reprises, je me suis un petit peu repris, mais voilà, non, je l'avais globalement bien en mémoire. Quoi.
Est-ce que aimer Racine, avoir joué Racine, ça joue sur la manière dont on parle ensuite d'amour? Ou pas du tout?
Non, je pense pas, parce que les lois qui régissent leur système social sont quand même plus contraignantes que les nôtres. Et donc vraiment, je pense que les situations impossibles dans lesquelles ils se mettent, on n'a pas à se mettre dans ces situations-là aujourd'hui, quoi.
Donc ça dépend.
Donc ça dépend un petit peu des fois, mais genre les impossibilités, les trucs, qu'est-ce qu'on va penser de moi, c'est un peu moins présent. Donc vraiment, les problèmes auxquels ils sont confrontés et qui mènent systématiquement à leur décès, hein, c'est vraiment des trucs très très graves. En fait, ce serait résolu beaucoup plus vite aujourd'hui. Donc il y aurait pas de pièces de Racine qui pourraient écrit avec nos lois d'aujourd'hui. Quoi.
Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Vous avez dit le fait que ce soit parfait.
Ouais. C'est de la poésie et il y a la rapidité avec lesquels certains sentiments sont dits et
ramassé.
Ouais. Mais c'est ça, en fait, je pense que toute la grande littérature, et en particulier la grande poésie, c'est ça. C'est à quel point tu vas toucher un truc d'une profondeur gigantesque avec une économie de moyens totale. Et en plus, il y a un rythme des mots et il y a des sonorités qui en soi sont belles. Et en plus, dans l'Alexandrin où tout tombe parfaitement au cordeau, il y a un truc de genre, il y a l'impression, c'est toujours un truc que je fais, que je dis sur l'Alexandrin, mais c'est un truc de l'impression que d'un quadruple saupérieux piqué, machin, etc. Et on revient et pa! Et on revient et on est tombé sur ses deux jambes et j'ai fait genre oh! Et on fait mais c'est fou ce qu'il a fait, ce gymnaste, et voilà. Et en plus, contrairement à ça où on fait juste wow, il y a aussi le fait que c'est allé toucher un truc très profond dans la poitrine. Et c'est un truc que j'ai avec certains trucs de musique classique aussi, mais c'est d'un crochet qui te saisit à la poitrine et qui te transporte là où il veut et qui fait atterrir là où il veut aussi.
Après des pirouettes.
Après des pirouettes. Et puis, il y a des, il y a des, Moi, j'adore. Parce que là, il faudrait peut-être le mettre un tout petit peu en contexte, ce passage d'Andromaque, mais c'est en gros, donc Pyrrhus, c'est toujours un truc. Pyrrhus, il aime Andromaque, et Hermione est amoureuse de Pyrrhus. Et lui, il force Andromaque, il dit à Andromaque, si tu m'épouses pas, je te bute ton fils. Et donc Andromaque, il dit, bon, bah, ok. Et là, il va dire à Hermione, qui est amoureuse de lui, qu'il va épouser quelqu'un d'autre. Et donc...
Là,
dans le passage que je viens de faire là. Et donc il dit, bah voilà, je suis vraiment désolé, je sais qu'on avait dit que je me mariais avec toi, mais...
De toute façon, je crains plus ton silence que tes injures. Donc tu peux y aller.
Exactement. Et genre, mais en fait, c'est ça, c'est que genre, injurie-moi parce que, en fait, je vais payer ma monnaie, c'est-à-dire, ça va être ma punition, et ensuite, bon, voilà, ça ira mieux. Et donnez-moi tous les noms
des narcissique.
Ouais, peut-être un peu, mais ça se termine pas bien pour lui non plus. Hein. Voilà,
c'est... Autre grand artiste du parfait, vous décidez de choisir À l'ombre des jeunes filles en fleurs.
Oui.
Deuxième volume de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Là aussi, c'est la France. Hein.
Ouais.
En voyant votre choix, je me suis dit. Ah, Dictionnaire historique à l'envers.
C'est vrai.
Jean Racine.
C'est vrai.
Marcel Proust.
Ouais.
Je sais pas, c'est comme ça me vient.
Non,
c'est peut-être c'est intéressant comme lecture.
C'est très la France, c'est très le génie français. Parce qu'il y a des génies pas français du tout, hein, il y en a plein. Et il y en a qui m'ont marqué même. J'avais pensé à un moment prendre Philippe Roth.
Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ouais.
Qui aurait parfaitement pu y être, quoi. C'est juste que j'avais moins de passages en tête où genre, tiens, il y a ce passage-là qui m'a marqué énormément. C'est plus des génies de la narration. Où en fait, c'est l'enchaînement des actions qui se prennent très bien. Mais ouais, non, très français. Je pense que je pense que la littérature française m'a plus marqué que d'autres littératures.
Et donc, alors, Marcel Proust, avez-vous lu toute la recherche?
Non. Pourquoi j'ai pris un truc dans le deuxième volume? Eh ben, parce que je me suis arrêté à la fin du deuxième volume.
C'est déjà pas mal.
C'est-à-dire que Marcel Proust, Proust, c'est vraiment...
À quel moment de votre vie?
Hyper précis, le moment de ma vie.
Okay.
Moi, j'ai un problème quand je commence des relations amoureuses. J'ai un problème de jalousie rétrospective. Je suis jaloux...
De ce qui s'est passé avant.
De ce qui s'est passé avant. Mais jaloux dans des proportions... Alors, je sais que c'est pas quelque chose que j'impose énormément à l'autre, dans la mesure, parce que je sais que c'est mon problème, en fait.
Mais ça vous ronge.
Ça me ronge, mais à un point maladif. C'est-à-dire que c'est des pensées... complètement obsédante.
Je déteste le moment où vous avez regardé ce match de foot ensemble.
Ouais, et c'est... oui, non, tout à fait. Ah, où vous avez couché dans l'arrière-truc de je sais pas quoi, machin, ça... Et ça me... Mais on pourrait dire... Enfin, comment dire? Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui adorent avoir ça en tête et avoir ces informations.
Une des solutions est de ne pas diffuser ces informations.
Et ne pas diffuser ces informations, exactement. Mais le truc, c'est que c'est un double tranchant parce qu'il y a une curiosité immense doublée d'une terreur d'apprendre quelque chose qui déplaise.
Choisissez votre déplaisir, David.
Voilà, exactement. Exactement. Et le truc, c'est que ça me rend taré. Et donc, il y a un moment où je me suis dit, attends, quels grands auteurs ont écrit sur la jalousie? Alors, il y en a un que j'ai connu que beaucoup plus tard, qui est Julian Barnes, qui a écrit un livre qui s'appelle « Avant moi », qui est exactement... mais mon frère! Mais vraiment mon frère absolu! Ça termine très mal pour la personne qui est comme ça, qui en fait devient dépressif au point qu'elle se fout en l'air. Un peu spoil pour les gens qui peuvent le dire, mais voilà. Tac, 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 je fais exactement pareil, toujours. Deux, ça coûte rien.
Rien du tout, c'est pas du bois, donc vraiment, ça coûte rien du tout.
Sinon, il y avait Senilita d'Italo Svevo, et l'autre grand écrivain de la jalousie,
Marcel Proust.
Et donc, en fait, il se trouve que comme je suis rentré par là par Un amour de Swann, qui est quand même un roman de la jalousie, qui est donc la partie centrale du côté de chez Swann. Mais après, j'ai juste découvert tout ce qu'il y a, j'ai découvert Proust, quoi. Que j'avais d'ailleurs essayé de lire à 3 ou 4 reprises, en me disant, mais c'est illisible, c'est pas possible. Et puis là, j'ai fait, mais comment j'ai pu lire autre chose que ça avant? Il se trouve quand même que, ok, bah alors pourquoi t'as pas lu toute la recherche du temps perdu? Bah parce que c'est quand même exigeant. Et qu'il y a des fois, sur 30 pages, on fait genre, ah, je crois que je vois pas tout à fait ce que tu veux dire là, c'est pas clair quand même. Et on arrive au bout de ces 30 pages et il y en a 5 où on fait genre, mais.
Illumination.
Mais qui a pénétré plus profond dans la précision de ce que c'est que certaines sensations humaines? Bah je crois vraiment pour le coup, personne. zéro personne sur la Terre.
Un extrait de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ».
Les murs humides et anciens de l'entrée où je restais à attendre Françoise dégageaient une fraîche odeur de renfermé qui, l'allégeant aussitôt des soucis que venaient de faire naître en moi les paroles de Swann rapportées par Gilberte, me pénétra d'un plaisir non pas de la même espèce que les autres, lesquels nous laissent plus instables, incapables de les retenir, de les posséder, mais au contraire d'un plaisir consistant auquel je pouvais m'étayer, délicieux, paisible, riche d'une vérité durable, inexpliquée et certaine. »
Ok, moi j'ai besoin de relire.
Ouais, bah oui, bah c'est toujours comme ça.
Les murs humides et anciens de l'entrain où je restais à attendre Françoise, les murs, dégageaient une fraîche odeur de renfermé. Qui ? L'allégeant aussitôt des soucis que venaient de faire naître en moi les paroles de Swann rapportées par Gilbert. Allégeant. L'allégeant aussitôt des soucis. La fraîche odeur de renfermé. Mm-hmm. Me pénétra d'un plaisir non pas de la même espèce que les autres, lequel nous laisse plus instables, incapables de les retenir, de les posséder, mais au contraire d'un plaisir consistant, la fraîche odeur de renfermé,
bien sûr,
auquel je pouvais m'étayer, délicieux, paisible, riche d'une vérité durable, la fraîche odeur de renfermé,
toujours,
inexpliquée et certaine, beaucoup plus facile à gérer que les paroles de Swann rapportées par Gilbert. C'est ça ?
Tout à fait. Les paroles
La fraîche odeur de renfermé, beaucoup plus facile à gérer que tout ce que venait de me dire Gilberte à propos de Swann, qui m'avait
Swann
fâché.
À propos de Gilberte, je crois.
Swann à propos de Gilberte.
Si on veut résumer le truc simplement, c'est genre, en gros, il aime Gilberte et il a une bonne nouvelle à propos de ça. Mais c'est dans un truc de situation amoureuse où genre, ah, oh, elle a dit ça, genre, ah, oh, cool, mais attends, est-ce qu'elle le pensait vraiment, etc. Et donc, en fait, les joies que peuvent procurer ces choses dans l'idée amoureuse, disons, elles sont, c'est ce qu'il dit, je sais plus exactement comment il dit le truc, mais c'est...
Elle nous laisse plus instable.
Est-ce que je peux l'avoir aussi Oui, c'est ça, c'est les trucs qu'on les bonnes nouvelles qu'on pourrait dire d'un point de vue amoureux, elles sont instables, on peut pas les retenir, on peut pas les posséder, elles
alors
sont fugaces.
Alors qu'une fraîche odeur de renfermé, c'est là, ça bouge pas.
Exactement, c'est et stable. C'est juste et en plus ce que j'adore, c'est que ce soit une odeur de renfermé, donc une odeur mauvaise. Mais c'est pas grave qu'elle soit mauvaise. Ça pue en fait. Ça pue mais c'est pas grave parce que ça pue de façon immuable, certaine qui provoque
là, c'est stable, ça bouge
c'est
pas.
C'est stable, c'est là
c'est mieux et c'est que le sentiment amoureux.
C'est inexpliqué, ça n'a pas besoin d'explication et c'est certain en même temps et genre et j'ai lu ça, j'ai fait mais ah mais oui mais ça pue mais c'est super que ça pue parce que ça pue toujours de la même façon.
Ah je comprends. Voilà. Ça marche hyper bien. Vers quoi vous nous emmenez ensuite ? Eh bien de l'érotisme.
Ouais.
Avec un texte
très court.
Très court qui s'appelle Pibrac.
Oui.
De Pierre Louis. Pibrac est un recueil. Je fais ça en même temps que je glisse un petit avertissement aux oreilles sensibles.
Tout à fait.
Pibrac est un recueil de 313 quatrains érotiques de l'écrivain Pierre Louis, publié clandestinement en 1927, après la mort de l'auteur.
Oui. Et c'est en fait donc des... comment ça s'appelle
Des quatrains.
Des séries de quatre avec son nain, des quatrains. Et... Il fait semblant que c'est des leçons de morale, de dire c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça. Sauf que, évidemment, quand on fait une liste de c'est pas bien de faire ça, bon bah on dit les trucs que c'est pas bien de faire et ça devient une liste de ces trucs. Une liste des lieux à ne pas visiter. Parce qu'ils sont trop porno. Bon, bah, du coup, ça devient une liste des endroits porno, en fait. Et bah, c'est exactement ça aussi. Et j'en ai choisi un qui est qu'on peut lire à la radio, parce que la plupart sont vraiment beaucoup trop porno.
C'est marrant que vous parliez de liste, parce qu'on a retrouvé une archive où vraiment on peut tout à fait se moquer de nous-mêmes, parce que c'est une forme de caricature d'émission de France Culture de 1978, où il n'y a que des gars qui parlent de la poésie érotique de Pierre Louis, et ils disent que c'est un auteur presque fétichiste des fiches et des listes. On écoute.
Pierre Louis était un maniaque de la fiche, car de la fiche ou du catalogue ou du dictionnaire. Exactement. Mais tout ça dans sa jeunesse. Et pendant que vous parliez tout à l'heure, je regardais deux pièces que j'ai apportées. Une qui s'appelle Glossaire érotique, qu'il a écrit en 3 jours au pied du Vénusberg, donc pendant l'un de ses séminaires wagnériens auxquels il assistait en été, dans lequel il fait un catalogue en écrivant en haut de chacune des pages de cet important ouvrage qui fait au moins 350 pages, pas ouvrage, mais important...
catalogue, encore une fois.
Non, mais quand il est vierge, c'est pas un catalogue, c'est un gros cahier. C'est un gros cahier de 300 ou 400 pages, où de son écriture manuscrite, il écrit dans l'ordre alphabétique ce qu'il appelait son vocabulaire érotique. Ça commence par ablution, ce qui est déjà très significatif, car pour lui, l'érotisme, c'est pas seulement les mots crus, mais c'est l'ablution, avant ou après, abreuvé, abondant, et ça se termine, 300 ou 400 pages plus loin, par tribade, je ne sais pas quoi. Ce qui est amusant, pour revenir à ce que disait Meunier, c'est que on voit là comment Pierre-Louis est velléitaire, car les premières pages sont très remplies, et à partir de la lettre D, E, il n'y a plus rien.
Je n'aime pas avoir la maîtresse du pape qui, pour monter en grade et changer de milieu, coïte avec un Christ en forme de priape et se croit chaque soir la maîtresse de Dieu.
Ah non, mais plus, je suis désolée.
Ah, il en faut plus ?
Bah ouais.
Ah bah, je peux... Mais ils sont vraiment très très porno. Hein.
Bah, j'ai fait un avertissement aux oreilles sensibles.
D'accord.
Si, plus,
ah non, mais
tout le monde veut plus.
Mais alors je le lis tout, je lis mon, parce que j'ai mon best-of souligné. Donc je peux,
c'est aux éditions d'Alia, comme ça je glisse au passage.
C'est un peu... C'est, non, parce qu'il y a des trucs... Enfin, c'est de la littérature, c'est n'importe quoi, c'est comme Sade, mais il y a des trucs vraiment complètement illégaux dedans. Pas illégaux à écrire, mais illégaux, très très illégaux à faire, quoi. Je n'aime pas avoir qu'Alice aux longues tresses lèche à la pension tous les cons du dortoir sous les yeux indulgents des jeunes sous-maîtresses qui donnent des conseils et tiennent le bougeoir. Je n'aime pas avoir la triste... Non. Non, non, vraiment pas.
C'est un livre très gras.
Pas possible. Je n'aime pas avoir un passe de l'écuelle.
Non. Plus.
Non. Si, ça peut ça. Je n'aime pas avoir un passe de l'écuelle. Je n'aime pas avoir un passe de l'écuelle, la putain qu'on encule en plein air dans le coin et qui dit chaque fois sa phrase habituelle, crache-toi sur la queue, elle entrera plus loin. Je n'aime pas qu'un homme enculant une. Non. Vraiment pas. Je n'aime pas avoir la belle bordelaise dont la bouche à moustache est un con malgré lui, même quand elle suce, on dirait qu'elle baise, et pour peu qu'elle bave, on croit qu'elle a joui. Ben oui. Je n'aime pas la nonne à la vulve très noire qui, pourpre, ayant rompu son dernier godemiché, se fourre au trou du con sa madone d'ivoire et savoure à loisir l'horreur de son péché.
Ça y est, c'est bon.
Ok.
Allez, stop, ça suffit.
Ok. Le vrai truc de ça, c'est qu'en fait, c'est pas du tout excitant. C'est drôle.
J'ai ri en tout cas.
C'est drôle, ouais.
J'ai ri et je me suis dit, dois-je rire ?
Ben,
puis-je rire ?
C'est drôle. Et je pense qu'une des choses qui fait que c'est drôle, c'est l'alexandrin. C'est toujours que l'alexandrin fait que on retombe sur les pieds. Et quand il y a une blague en plus dans le dernier mot...
Après la pirouette.
On retombe là. Comme ça, quoi.
Oh, bravo.
Je pense. Ouais.
Dernier choix.
Ouais.
Vous qui avez dit que vous aimiez comprendre et faire comprendre,
oui,
et raconter les choses,
oui,
c'est un peu un frère, puisque vous êtes allé voir chez Hector Obalk qui, oui, fait ça à propos de l'histoire de l'art.
Ouais.
Vous choisissez un extrait d'un livre qui s'appelle « Aimer voir »,
mmh,
où il commente 120 œuvres d'art de l'Antiquité, c'est ça ? Pas que de l'Antiquité.
Non, pas que de l'Antiquité. En gros, c'est...
Petits et grands moments de l'histoire de l'art.
C'est toute l'histoire de l'art. Et c'est, mais avec un propos qui court du début à la fin, c'est un propos sur la nature de la peinture et ce que, qu'est-ce qui peut être beau dans une peinture. Donc, apprendre à regarder une peinture et à aimer la regarder. Et c'est pour ça que ça s'appelle « Aimer voir ». Et cette peinture, avec toute cette idée de l'art de la peinture qui est complètement magique, qui est cette idée de genre... c'est plat, ça bouge pas, et pourtant il faut que ça évoque le mouvement, le temps qui passe, plein de trucs qui sont indicibles normalement de cette façon-là, et que les peintres ils essayent de trouver des façons. Il n'y a pas de texture des choses non plus dans la peinture, c'est la texture de la peinture, et pourtant il faut rendre les textures texture des vraies choses. Donc, tous ces trucs, un moyen qui a très très peu d'outils à sa disposition et qui pourtant arrive à créer des mondes de fous où tout ce que je viens de dire est évoqué. Et ça, c'est le, bah, c'est le génie d'Hector dans son, qui n'est pas forcément un vulgarisateur, c'est quelqu'un qui fait aimer par sa sensibilité, quoi.
Mais qui fait aimer le savoir.
Qui fait aimer sensuellement la peinture. Il fait aimer. L'idée, c'est que vraiment, à travers lui, parce que moi je le connais quand même depuis longtemps, à travers lui, c'est genre, on fait ah, mais oui, je vois pourquoi c'est beau, c'est super. Donc, c'est. Il dégage dans notre esprit la possibilité d'aimer et de ressentir et d'avoir du plaisir à voir les tableaux, quoi. Et là, j'ai choisi, moi, un moment où il parle de l'art de la physionomie, en fait. Donc, il y a plusieurs chapitres. Il y a l'anatomie, il y a la physionomie, il y a le temps. Et là, c'est la physionomie. La physionomie, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît un visage. Donc, les caractéristiques d'un visage, mais donc aussi ce que le visage dit de la nature de la personne qui a ce visage, quoi. Ah tiens, est-ce qu'elle a l'air plutôt sympa, est-ce qu'elle a l'air plutôt joviale, est-ce qu'elle a l'air plutôt renfermée, est-ce qu'elle a l'air plutôt raciste.
Comment elle est peinte.
Voilà, comment elle est peinte et comment est-ce que les peintres s'y prennent pour montrer la physionomie des gens qui prennent pour objet, quoi.
Alors, puisque c'est un homme qui a fait de la radio, comme vous.
Oui.
Et comme Alain Rey, d'ailleurs.
Oui.
On va écouter sa voix.
Très bien.
Avant de vous entendre lire.
Ce qui est magnifique avec la peinture, c'est que c'est un art de la fiction à peu près pour tout. Tout est fictionnel. La lumière, par exemple, c'est vraiment un tour de passe-passe de la couleur, la lumière. Il n'y a pas de lumière réellement, au sens où il y a des lumières au cinéma, etc. Le mouvement. Quand on dit, quel mouvement dans cette composition, vous voyez, ça ne bouge pas, c'est immobile un tableau. L'espace, puisque c'est plat, ça ne peut pas y avoir. La sculpture, c'est du volume réel. Le cinéma, c'est du mouvement réel. Et enfin, le plus bel de toutes les fictions de la peinture, c'est la texture. La figuration est au dessin, ce que la texture est à la couleur, dans la manière dont elle est peinte, ou étalée avec le pinceau, ou etc. Elle va figurer des matières différentes. Cette matière, c'est une texture, et cette texture est une fiction. Ce que j'essaye de dire de... Là, je vois un tableau de Lotto, l'Archimboldo, Bonnard, Rubens, Rembrandt, Manet, etc. C'est ce que la peinture évoque. Pas m'évoque, évoque, à qui est sensible. Aimer voir, c'est une façon de dire que le sujet a son importance, mais que la manière de peindre en dit davantage sur la conception du monde, pour prendre des mots un peu grandiloquents, que le peintre se fait de la réalité.
Si le dessin de nu est plus difficile que celui d'un arbre, c'est qu'un arbre peut varier la longueur de ses branches, lesquelles peuvent varier le nombre de leurs feuilles, mais qu'un nu ne peut varier le nombre de ses jambes ni la longueur de ses bras. Bref, le dessin de nu n'a droit à l'erreur que dans le cadre d'une marge étroite au sein de laquelle l'artiste exprime sa fantaisie ou son génie. Mais de tous les objets susceptibles d'être dépeints avec réalisme, la physionomie demeure le terrain de la plus grande précision, sauf à changer de registre pictural, naïf ou grotesque. Toute modification de la largeur des yeux ou de la distance du nez à la bouche a un impact puissant sur l'identité de la personne représentée. Identité dont se fiche le peintre de nu, nous y reviendrons. L'art du portrait conjugue donc la noblesse d'une mission, qu'il est seul à pouvoir remplir pour la postérité, avec la difficulté sans précédent de la maîtrise du dessin qu'il suppose. Si le dessin d'une anatomie se contente d'exiger la vraisemblance, celui de la physionomie implique la ressemblance propre à l'art du portrait. Or, la notion de ressemblance est problématique car nous ignorons en général tout du vrai visage auquel fait référence chacun des portraits d'Ingres, Delatour, Van Dyck ou Holbein, pour citer les meilleurs, et sommes donc bien incapables d'en vérifier l'identité. C'est tout de même un paradoxe que l'effet de ressemblance soit essentiel à l'art du portraitiste et qu'il demeure la plupart du temps invérifiable pour le spectateur, que je prétendais pourtant fasciné par cette ressemblance. Afin de ne pas voir s'écrouler ma théorie, je propose ceci. Quand nous sommes fascinés par un portrait, nous admirons la faculté qu'a le peintre de faire voir la prodigieuse expression d'un visage au seul moyen de quelques traits bien placés. La vérité de son expression témoigne à nos yeux de l'existence du modèle aussi fortement que si on l'avait fugitivement aperçu en collant son œil au trou d'un mur. On est désormais sûr qu'il y a bien une présence derrière le mur, comme on est sûr qu'il y a eu quelqu'un derrière l'image figée de son portrait. Bref, il suffit que le portrait nous ait touché par la vérité soudaine de son demi-sourire, de son air absorbé, de son dépit, de son charme ou de son autorité, pour que l'on suppose comme une évidence son haut degré de ressemblance.
Ça me fait penser à deux choses, votre lecture, David Castello-Lopez, de Aimer voir de Hector Orbalk.
Obalk, ouais.
De Hey, ça fait plusieurs fois que je dis Orbalk.
Obalk, non, je crois Obalk, que je vous aurais corrigé.
De Hector, Obalk, paru en 2011. Ça me fait penser au fait qu'il élabore une hypothèse, une théorie,
oui.
Chose que vous aimez faire.
Oui.
Et la deuxième chose, c'est une question que vous posez souvent dans un podcast qui s'appelle Small Talk pour Combini, qui est « Quel est votre rapport à votre visage ?» Voilà.
Tout à fait. Quel est votre rapport à votre visage?
Ça croise les deux.
Ça croise un petit peu. Là, c'est quel est le rapport au visage de gens peints il y a super longtemps.
Et la supposition que nous faisons de la ressemblance alors que nous n'avons pas le modèle.
Exactement. C'est fou. Et on se dit, putain, c'est ressemblant. Mais qu'est-ce que t'en sais que c'est ressemblant? Tu l'as vu, tu l'as vu, le pape Jules II? Bah non, tu l'as pas vu. Alors, ta gueule. Eh bah si. En fait, on a quand même l'idée que c'est ressemblant. C'est fou d'ailleurs de voir ce que j'ai essayé de dire sur Hector au départ.
Vous n'étiez pas obligé de faire cette remarque.
Que je l'ai dit comme j'ai pu, ensuite il le dit genre 27 fois mieux que je l'ai dit jusqu'avant. C'est pas grave, c'est très très bien qu'on ait vu, qu'il l'ait dit encore plus clairement que moi. C'est vraiment quelqu'un de ce point de vue-là qui a changé plein de trucs dans ma vie, mais qui a changé la façon dont je vois les tableaux, Hector. Et qui a ce truc pas du tout. Il est pas dans l'érudition de genre, ouh là là, alors que c'est quoi ces objets dans ce tableau du Christ? Qu'est-ce que ça nous dit des évangiles de mon... il est dans la jubilation sensuelle de ce que c'est que de regarder la peinture.
Et la générosité, par contre.
Et la générosité, complètement, quoi. Et d'ailleurs, si je peux le dire, il a un spectacle qui s'appelle « Toute l'histoire de la peinture ». En ce moment, toujours, depuis plusieurs années, vous pouvez le voir un peu, enfin, surtout à Paris, mais un peu partout. Si vous êtes un tout petit peu intéressé par la peinture, c'est génial.
Mot de la fin?
Ouais, pourquoi pas?
C'est génial, allez voir.
C'est génial.
Et venez me voir aussi un petit peu, non?
Venez voir surtout mon spectacle. Et puis une fois que vous avez vu le mien, vous pouvez aller voir celui d'Hector.
Merci de nous avoir ouvert votre bibliothèque.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
In the water of the toilet, I wash my hands in the beauty of your tears. And every time I see you smile, I feel like drowning in the Nile. I break my feet on the pathway to forgiveness. I break my feet on the beauty of your stairs. And every step I try to take, I realize it's all a fake.
Au son aujourd'hui, c'était Noé Chaban. À la réalisation, c'est June Loper à qui on doit ce petit bijou. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Cyril Marchand, Oriane Mignot, Mathilde Wagman, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Apolline Limo-Sino. Toutes les références des textes évoqués par David Castello-Lopez sont à retrouver sur la page du Book Club, page où vous pouvez à la fois écouter les émissions et retrouver tous nos portraits de bibliothèque.
And every time I sense your shine, I feel a crack along my spine.